Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire où on va voir ensemble la checklist relations clients pour 2026. Alors vous verrez que j'ai mis 10 cases à cocher, mais ce sera à vous de choisir celles qui sont prioritaires. Alors, donc petite introduction sur ce webinaire et comment ça va se passer. C'est assez simple. Donc, on va faire une petite présentation d'Eloquent, qui est éditeur de solutions de centre de contact et logiciel en cas de satisfaction client et collaborateur. Ensuite, on fera un petit récap sur les attentes des clients et pour cela, je me servirai en particulier de l'étude et du service client de l'année. Ensuite, je vous présenterai rapidement une étude que l'on a menée auprès de professionnels de relation client. Alors là, ce sera secteur transport, logistique, énergie, mais ça peut être facilement extrapolable à d'autres secteurs d'activité. Et enfin, on va passer à cette fameuse checklist relation client avec des points à intégrer dans votre plan relation client pour 2026. Alors, je me présente, je suis Frédéric Canevet et je m'occupe des projets digitaux chez Eloquent. Alors, je vous ai parlé d'Eloquent, mais pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous faire un rapide qui est Eloquent. Donc, Eloquent est éditeur de solutions de gestion de la relation client, en SaaS, hein, bien sûr. Notre but est d'aider les entreprises à orchestrer, mesurer et améliorer les conversations avec leurs clients et éventuellement leurs collaborateurs via une plateforme cloud d'expérience client qui utilise l'IA. Donc, on a une solution de centre de contact omnicanal et de voix du client et du collaborateur. Ça fait plus de 25 ans qu'on existe, on est une centaine de personnes. On gère à peu près un demi-milliard d'interactions chaque année, que ce soit du chatbot, du callbot, de l'email, du chat, du RCS, autant de canaux. On gère à peu près 150 millions d'enquêtes de satisfaction chaque année et on est certifié ISO 27001, 27701, HDS et on a actif. Donc, la mission, c'est donc vous aider à créer des conversations mémorables avec vos clients et vos collaborateurs et fluidifier votre relation client. Et comme je vous le disais, pour vous aider, on aura cette plateforme cloud d'expérience client, donc un logiciel de centre de contact omnicanal qui est vraiment centré sur ce fameux orchestrateur omnicanal qui permet de gérer la voix, les emails, le SMS, le chat, le messaging, le RCS, WhatsApp, la visio-assistance et bien sûr d'aider les conseillers à être plus efficaces ou aussi les superviseurs avec le reporting, etc. Le but après, c'est bien sûr de donner la main soit à l'humain quand il le faut, et à ce moment-là, en fait, on aura bien sûr tous les canaux très classiques, soit en fait d'utiliser des robots et d'intelligence artificielle pour gérer les tâches à faible valeur ajoutée, comme les callbots, les chatbots, ou alors pour aller analyser les verbatims, les interactions au téléphone. Voilà. Nous, on le voit chez nos clients, hein, mettre en place ce genre de solution permet d'améliorer l'efficacité, la productivité et l'engagement des collaborateurs. Je vous ai parlé de près de 350 clients. Je vous en mets ici un certain nombre à l'écran. Donc, vous verrez, on a des très grandes entreprises, telles que Bouygues Télécom, telles que Geodis, Massif, etc. Puis, on a des sociétés plus modestes, comme WeFirst, qui équipe la plupart des hôtels et des points Wi-Fi, ou l'école des loisirs, si vous avez des enfants, ça doit vous parler. Alors, pour commencer, je vais vous parler maintenant des attentes des clients. Et pour cela, en fait, je vais m'appuyer sur l'étude et du service client de l'année. Donc, on va faire un petit récap avec quelques chiffres clés que j'ai retirés. Alors, le premier, tout simplement, c'est que le téléphone reste toujours le premier canal de communication, 53%. On verra juste après l'évolution, suivi de l'email. Donc, ce sont les canaux indispensables. Ce que l'on voit, par contre, c'est l'augmentation des bots. Même si, on le verra, ils sont un petit peu décriés, ils représentent quand même un des canaux qui est le plus en croissance depuis de nombreuses années. Il y a des autres canaux aussi qui sont vraiment importants. On voit les canaux classiques restent toujours essentiels avec près de 70%, donc ils restent toujours importants, en particulier l'email et le téléphone, mais également des canaux digitaux, hein, 46%, quasiment la moitié des interactions. L'interface web, si on note encore la partie site internet, et bien sûr une baisse, comme d'habitude, du face-à-face. Voilà. Alors, la moyenne, c'est 3,7 canaux, hein, donc on est comme sur beaucoup de canaux, et c'est ça qui est intéressant, c'est que on peut voir que tous les canaux quasiment augmentent, hein, le téléphone, on est à 53% contre 50 ou 55, là. Les emails, là aussi, on est sur une petite croissance, ou un chiffre qui est à peu près stagne. Il y a juste le téléphone qui, historiquement, est vraiment en baisse. Le site web, toujours aussi un petit peu en croissance, même si on est moins féru du site web qu'auparavant, on utilise beaucoup l'email. Mais on voit le chatbot, chaque année, ça progresse. Il y a 10 ans, on était à zéro, et là, on est à 30%, donc un tiers des interactions. Donc, on voit bien qu'il y a une certaine maturité, une volonté des entreprises d'améliorer cette productivité. Le live chat aussi. La messagerie mobile, petit à petit, lui aussi, c'est un canal qui progresse. Il y a juste, en fait, la partie réseaux sociaux où on voit une légère baisse. c'est qu'on est plutôt sur des conversations qui viennent de plus en plus privées ou des gens qui sont vraiment plus embêtés, donc qui cherchent à utiliser ces canaux-là. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a toujours plus de canaux, plus d'interactions, et donc en fait, ce n'est pas un canal qui remplace totalement les autres. Tous les canaux restent assez importants, même si on voit un déclin lent du téléphone et un petit peu de l'email. Alors, si on voit la satisfaction, les canaux les plus humains, entre guillemets, sont ceux qui donnent la plus grande satisfaction. Grosso modo, 80% de satisfaction. Quand vous êtes au téléphone, là, vous avez ce taux qui augmente. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est quand on a une personne au téléphone, c'est là qu'on voit un effet waouh. Donc, un moment de vérité positif, et on verra justement que c'est important de créer un effet waouh et comment on va le faire. Donc, le téléphone, l'humain, c'est là que, hop, c'est un canal qui fait la différence. À l'inverse, les canaux 100% IA, comme par exemple les chatbots, sont ceux qui ont la plus grande insatisfaction, puisqu'une personne sur deux n'est pas satisfaite de son interaction avec un bot. Et pourtant, on continue à faire, c'est le canal qui augmente le plus. Alors, les nouveaux chatbots avec l'IA générative permettront d'avoir une meilleure satisfaction, mais néanmoins, on reste toujours sur une insatisfaction. Donc, on verra, donc il faut l'utiliser au bon moment pour les bons usages, par exemple en débordement, et je vous donnerai un exemple ou deux. Voilà. Les réseaux sociaux aussi, on voit qu'on peut vivre un moment positif, tout simplement lorsqu'on est capable de répondre rapidement. Voilà. Si on parle maintenant de l'IA, j'en ai parlé un petit peu, ici, il n'y a pas de refus en bloc de l'IA. On le voit bien, ici, 38% des personnes pensent déjà que l'IA seront partiellement gérées par l'intelligence artificielle. Donc, on voit bien que les gens se disent, OK, moi, je le vois, j'utilise. Je pense en fait que l'IA peut m'aider. Il n'y a pas de refus en bloc. Alors, des gens qui disent, c'est un petit peu trop tôt. Ça mettre en parallèle avec des gens qui sont insatisfaits, 1 sur 2. Donc, 40% qui disent, quand ça sera un peu plus mature, etc. Mais on voit bien qu'il y a une véritable adoption. Ce qui compte vraiment, c'est de donner la bonne réponse au bon moment. Et on voit bien aussi dans cette réponse, cette question-là, on voit bien que les gens disent, je préfère attendre plus longtemps pour avoir un humain. Mais ça, c'est plutôt pour des questions complexes, pour être rassuré, etc. Parce qu'en même temps, ils disent, à 64%, je préfère en fait avoir un bot. Donc, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est peu importe le canal, ce que veulent les gens, c'est une réponse juste et rapide. Voilà. Je vous invite à regarder après cette étude qui a été réalisée par COSEDAL, donc c'est le baromètre CaliWeb qui est réalisé chaque année par les équipes de Carole Sasson. On a fait un webinaire, vous pourrez regarder. À chaque fois, je vous ai mis ici des petites URL YouTube avec des webinaires. Là, il y a un webinaire de 45 minutes qu'on a fait avec Carole Sasson et Green Bureau et Apizzi. Donc en fait, on voit eux, ils ont distingué de manière beaucoup plus fine trois profils de clients. Il y a les relationnel classique, à peu près 25% des personnes. Eux, en fait, ces personnes-là, ils sont plutôt âgés, seniors, et en fait, ils veulent vraiment de l'attention, ils veulent des échanges humains, ils veulent de l'écoute. Et donc, eux, ils sont plutôt réfractaires de l'utilisation de l'IA parce que c'est seulement 40% qui disent positif à propos de l'IA. Il y a 10% qui sont très réfractaires parce que pour eux, c'est une technologie très compliquée. Donc, ils ont une méfiance sur les données personnelles, l'attente, etc., etc. Donc, on voit que si vous avez beaucoup de clients dans le domaine des seniors, attention aux bots parce qu'ils ne sont pas tout à fait frais. Après, il y a des pragmatiques, à peu près une personne sur deux. Donc, 2/3 de moins de 50 ans, des étudiants. Eux, en fait, ils s'en foutent un peu. Ils veulent de l'omnicanal selon l'urgence. Ils veulent du chat, du bot selon ce qu'il faut. Ce qu'ils veulent, c'est d'efficacité, d'écouter la bienveillance. Et ils utilisent 68% l'IA. Donc, c'est pas de rejet ni de bénéfice. En fait, eux, ils voient vraiment quelque chose de pragmatique. Et après, à la fin, il y a les digitaux efficaces. C'est les actifs, les gens qui n'ont pas de temps, qui ont une famille, etc. Encore une fois, beaucoup de gens de moins de 50 ans. Ils veulent peu d'attente, des médiatés, des mini-canals. Et eux, pour eux, ils veulent vraiment de l'IA. Ils disent, 77%, ils sont prêts à utiliser l'IA. En pro, ils l'utilisent déjà. Donc, ils sont conscients des bénéfices et des risques. Mais ils se disent, de toute façon, c'est plutôt positif. Donc, je vous inviterai à regarder cette étude. Vous pourrez la regarder. Elle est vraiment intéressante. Il y a une petite pyramide avec des conseils, des usages et également l'évolution sur les différents réseaux sociaux. Alors, un autre point aussi, c'est est-ce qu'il y a eu des moments waouh ? Et donc, en fait, moi, ce que j'aime bien dans cette slide-là, c'est qu'on voit qu'est-ce qui fait un moment waouh. On voit bien sûr, c'est la confiance qu'on a avec la personne qu'on a en face de soi, au téléphone particulièrement. Mais ce qui est important, c'est cette partie empathie, personnalisation, réassurance, reconnaissance. On voit bien que c'est ce qui compte le plus, la confiance. La personne m'a fait confiance, m'a aidé, a été attentionnée, il y a de la considération, etc. Et à l'inverse, qu'est-ce qui gère de la défiance ? C'est tout ce qui est déception, frustration, colère. C'est on ne me comprend pas, on n'a pas compris. J'ai fait l'effort d'appeler, j'ai fait l'effort de faire une demande, vous m'avez pas compris. Donc, on voit bien que cet effort d'être compris est également essentiel et clé. Alors, je sais pas si ça vous parle à vous, hein. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires votre retour si vous faites les mêmes constats. Alors là, en fait, on a vu le point de vue des clients. Je voulais juste rapidement vous présenter le point de vue des professionnels. Alors pour cela, en fait, on a fait une étude dans le cadre d'une matinale qu'on a fait sur le transport logistique énergie en septembre dernier, en octobre dernier, et on a demandé en fait quelles étaient les bonnes pratiques et les projets prioritaires. Comme ça, ça permet de mettre en résonance ce que vous pensez, ce que pensent en fait les consommateurs. Alors, au niveau des bonnes pratiques, ce qui est intéressant, c'est que dans le panel qu'on a interrogé, en fait, il n'y a pas de solution de miracle. À chaque fois, 74% des réponses, c'est de la formation, un peu d'IA, un peu d'organisation, un peu de CRM, un peu d'enquête de SAT, un peu de nouveaux canaux. Il n'y a pas de solution miracle, en fait. L'IA et la formation sont les plus importants, mais c'est pas ça qui va faire la différence. Pour vous, en fait, dans les bonnes pratiques, ce qui a amélioré le plus l'expérience client cette année, c'est un mélange d'un peu de tout. Selon les besoins des clients, on met un peu d'IA, on met un peu de formation, on fait de la culture client, etc., etc. Donc, on voit bien qu'il y a des choses qui freinent un peu. C'est toujours process, organisation, en particulier dans les grandes entreprises. Par contre, dans certaines entreprises, la culture client est plus ou moins citée. Donc, dans les bonnes pratiques, là, je vous laisserai regarder tranquillement. Ce qui revient, c'est les outils, CRM, solutions de centre de contact, des nouveaux canaux. Par exemple, le chat qui a fait gagner 10 points de NPS et de 5% les ventes directes. On voit aussi des nouveaux canaux comme WhatsApp qui permet de communiquer directement, l'IA qui permet de répondre plus rapidement, aussi de la partie proactivité, ça on le verra tout à l'heure, l'appel de courtoisie un mois avant la livraison pour vérifier que tout se passe bien, FAQ de site web, visio-assistance, valorisation des gestes commerciaux, formation aux réflexes relationnels, etc., etc. Après, il y a d'autres bonnes pratiques, l'analyse des écoutes qualité avec l'IA, quality monitoring, l'engagement des réponses sous 48 heures, le CRM, la base de connaissances liée à l'IA, encore une fois, un chatbot efficace, la mise en place d'un bot qui permet de réduire les interactions simples. Et on voit aussi des choses un petit peu plus old school, comme par exemple l'envoi de cartes postales manuscrites pour remercier les clients. Donc, on voit bien que les solutions sont assez diverses et font vraiment la part belle à ce qui compte le plus dans votre entreprise. Si on vient sur les priorités de 2026, là, on a vu dans les bonnes pratiques, ce n'était pas forcément l'IA qui arrivait. Et pourtant, cette année, on voit bien que vous avez fait un focus là-dessus. Même si la culture client est derrière, l'IA, les bots, l'analyse sémantique arrivent premier. Alors, il n'y a pas non plus une grosse différence, mais néanmoins, culture client, IA, c'est vraiment les choses les plus importantes. Et après, les outils, CRM, centre de contact, travail sur la client et donc personnaliser, ce qui sera un élément de la checklist, travailler sur l'engagement des collaborateurs. Et après, par contre, en dernier, on voit que tout ce qui est préoccupation sociétale est comme un petit peu légère. Et par contre, on voit l'émergence des incivilités et c'est pour ça qu'on en parlera dans cette fameuse checklist. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire si dans votre plan relation client de 2026, vous avez bien ce trio avec analyse sémantique, enfin IA, culture client et CRM dans les priorités, ou si vous avez mis quelque chose en premier d'autre. Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est la checklist 10 points pour améliorer votre relation client. Alors, moi, ce que j'ai fait pour cette checklist, j'ai essayé de reprendre en fait tous les enjeux qu'on a vus précédemment. IA, culture client, proactivité, efficacité, etc., etc. Et rajouter en fait à chaque fois des leviers à mettre en place. Donc en fait, ça, je vous commence toujours par présenter l'idée. Qu'est-ce que c'est l'idée? Pourquoi on le fait? Ensuite, des exemples chez nos clients. Et ensuite, en complément, parce qu'on n'aura pas le temps de tout traiter là en 45 minutes, des exemples de webinaires, d'ateliers qu'on a mis en place, qui durent parfois 45, 50 minutes ou une heure, qui vous permettront d'approfondir le sujet. Ensuite, comme ça vous permettra, à partir des points clés que vous avez relevés, de trouver les points que vous voulez améliorer et avoir les ressources pour le faire. Bien entendu, on est également à votre disposition. Si vous voulez qu'on se fasse un petit atelier d'une trentaine de minutes ou 42 minutes, 45 minutes pour analyser votre relation client, comment on peut vous aider à fluidifier les parcours clients, dites-le nous et on sera heureux de vous accompagner sur le sujet. Un petit rendez-vous. Donc, dans les 10 points clés, j'ai mis ces éléments-là. Signature relationnelle, important pour se différencier. La proactivité qui arrive de plus en plus. Donc, on l'a vu, différencier, ne pas attendre que le client appelle. L'intégration d'intelligence artificielle, la gestion des émotions, réhumaniser au bon moment. On l'a vu, les fameux effets waouh. L'excellence opérationnelle pour répondre aux besoins des clients. La transformation des feedbacks clients en plan d'action. Le renforcement de la fluidité des parcours clients. La personnalisation et l'optimisation des ressources. Ça, ce n'est pas indiqué trop dans vos priorités de 2026 qu'on a remonté de cette étude-là, mais c'est des choses quand même que moi je remonte, que je vois et qui remontent en fait quand je discute avec des responsables relations clients. Alors, le premier point, définir sa signature relationnelle. Alors, c'est un petit peu un basique, la plupart des grandes entreprises l'ont fait, mais c'est quand même important de revenir là-dessus. La signature relationnelle, c'est vraiment au cœur de votre relation client et votre offre relationnelle. Le but, c'est partir du pourquoi, quelle est la promesse, qu'est-ce qui est mon positionnement et les autres. Pourquoi moi plutôt qu'un autre? Et on verra que c'est quelque chose qui est vraiment important. Et on le verra dans cette partie effet waouh, expérience client et gérer des émotions. Donc ensuite, une fois qu'on a dit qu'est-ce qui me caractérise et qu'est-ce qui me différencie des autres, ben, c'est le comment. Cette matérialisation de la promesse, qu'est-ce que je vais faire pour le prouver? Ça peut être via des canaux, via une orientation client, via des attitudes, etc. Et quoi? Ben, c'est quels sont les outils de manière concrète que je mets en place pour donner une réalité concrète à cette signature relationnelle. Alors, je voulais distinguer vraiment signature relationnelle de charte relationnelle. La signature relationnelle, c'est vraiment la promesse que je vais faire. Et la charte relationnelle, c'est comment je vais la mettre en place avec les comportements adoptés dans la relation client au quotidien. Et pour cela, en fait, ben, j'aime beaucoup citer cet exemple puisque la Maïf est un de nos clients. Et en fait, on a interrogé une responsable de la formation que vous pourrez retrouver ici dans la vidéo et qui explique bien que ce qui est important à la Maïf, c'est tout ce qui est formation, autonomie des conseillers, le recrutement des bonnes personnes, etc., etc. Et c'est vrai que ça fait la différence. Et c'est vrai qu'au départ, on discutait avec les équipes et puis je leur disais, mais est-ce que vous voulez mettre un callbot? Est-ce que vous voulez pas mettre un chatbot, etc., etc. Mais ils disaient, mais non, nous, notre ADN, nous, notre signature relationnelle, c'est bien sûr la relation client humaine et donc pas de mettre de bots en place ou alors des bots qui vont être vers une mer transparente, hein, ça, je peux l'admettre. Mais en tout cas, une relation client premium, humaine avant tout. Donc ça, c'est important de se dire, mais qu'est-ce qui va me caractériser. Et je vous invite à regarder cette petite interview rapide sur 3-4 minutes et vous verrez que c'est important. Et dans cette matinée-là, on a bien donné un exemple où un jour, en fait, un conseiller avait eu un agriculteur au téléphone et cet agriculteur, en fait, a vu un incendie et en fait, normalement, c'était une indemnité pour qu'il aille à l'hôtel et qu'il puisse en fait se loger en attendant comme sa maison avait brûlé. Et c'est vrai que le conseiller avait dit, mais qu'est-ce qui vous permettrait de faire quelque chose de mieux. Et il disait, j'aimerais bien avoir une caravane. Et c'est vrai que le conseiller avait demandé à son manager, est-ce qu'on pourrait acheter une caravane au lieu de faire le montant classique? La caravane, ça coûte le même prix que l'hôtel, mais ça permet à la personne de rester sur son exploitation. Et ils avaient dit oui. Et ça, c'est véritablement cet aspect autonomie, cet aspect adaptation à la personne qui est vraiment une caractéristique de cette signature relationnelle. Alors, pour définir une charte relationnelle, je vous invite à consulter cette interview de Nathalie Namias, qui est donc responsable relations clients et qui est également animatrice de l'émission TV Success Stories. Et donc, elle nous a fait le plaisir de répondre à quelques questions dans une interview que vous pourrez consulter ici. Il y a un petit résumé aussi sur notre article de blog et elle explique en fait pourquoi mettre en place une charte relationnelle et qu'est-ce que ça comprend. Donc, la charte relationnelle, c'est pour incarner la marque via un guide écrit qui va donc transmettre les valeurs, les volontés, ambition d'entreprise qui permet de formaliser ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, etc., etc., gérer par exemple les situations spécifiques. Donc, je vous invite à consulter cette interview si vous n'avez pas encore défini de charte relationnelle. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs. Qui dans le chat a mis en place une charte relationnelle avec un petit workbook qui détaille ça? Je vous citerai tout à l'heure un exemple avec Brandt, hein, malheureusement qui a été en liquidation il y a deux jours, mais on verra que Bruno Guittard avait créé justement un guide complet qui est vraiment très intéressant et je vous expliquerai justement comment il a mis en place cela avec une relation client qui comprend également du bot. Le point numéro 2, la checklist numéro 2, la proactivité. Alors la proactivité, souvent c'est un peu plus compliqué à mettre en place parce que ça nécessite de faire un effort, de changer un peu les organisations, de changer les habitudes, mais c'est un effort qui est payant. Le but en fait, c'est au lieu d'attendre que le client va vous appeler et avoir du stress du client parce qu'il n'a pas eu l'info, parce qu'il veut résoudre un problème rapidement, et bien en fait, on fait l'inverse, on prend l'initiative, on appelle le client ou on lui envoie un message de manière proactive et on anticipe sa demande et on fait son suivi dans le temps, ce qui permet de faire en sorte que le client soit rassuré. Et ça, cet aspect rassurer le client est vraiment important. On l'a vu tout à l'heure dans l'aspect qu'est-ce qui fait un effet waouh. Donc, les différents leviers pour intégrer la proactivité, soit vous mettez dans l'offre, donc les process et les outils, par exemple, comment je vais faire pour gérer des abandons de poignet, la non-utilisation, des incidents, gérer des pics d'appels, des personnes qui n'utilisent pas depuis un petit moment, on fait des process parce qu'ils vont lancer des messages, lancer des campagnes, lancer des actions pour les conseillers, soit alors on va travailler plutôt sur la spontanéité de la culture client, et là on va dire tiens, il y a peut-être un choix incohérent qui a été fait par la personne dans son choix, soit on propose des choses un peu différentes, comme l'exemple de la maïf tout à l'heure avec l'agriculteur. Donc soit on essaye de trouver des erreurs, enfin voilà, c'est cette intelligence relationnelle, cette intelligence humaine qui fait la différence. Alors, je vous donnerai un exemple à chaque fois. J'essaye de vous donner à chaque fois la checklist et un exemple et avec des ressources. Donc, les campagnes proactives qui peuvent être envoyées en amont des pics d'activité. Là, c'est dans le cas du mutuel pour les enfants. On sait très bien que si vous avez des enfants en septembre, il faut le dossier avec l'attestation scolaire, qu'il faut toutes les informations. Et donc, forcément, ils ont un pic d'appel qui est énorme. Avant la mise en place d'une solution de centre de contact éloquent, forcément, ils n'avaient pas géré tout ce pic d'activité avec les messages d'attente, etc. Là, maintenant, ils vont même aller dans la proactivité avec l'envoi d'un SMS et des emails qui permettent d'aller récupérer sa carte de tiers payant. Et là, pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai reçu sur mon téléphone un petit SMS qui me disait « Hey, la carte de tiers payant de fin d'année est disponible », donc je l'ai téléchargée et maintenant, elle est dans mon portefeuille. Donc, ça évite après d'avoir le stress de dire « Oh là, où elle est? J'en ai besoin pour aller chez le médecin, etc. » Donc voilà, on cherche comme ça à lisser la charge de travail et à faire en sorte que la personne n'appelle pas. Le meilleur appel au service client, c'est celui qui est évité. Et vraiment, ça permet aussi d'éduquer les personnes et les faire en sorte qu'ils aillent de plus en plus vers le self-care. Alors, je vous ai mis ici un webinaire qu'on avait mis en place sur la proactivité dans la relation client. Alors, je vous citais 3 exemples que j'aime bien. Vous pourrez consulter les 3 autres après. Le premier, en fait, c'est Geodis qui a vraiment travaillé sur la proactivité dans sa relation client, en particulier sa partie réception. Puisqu'en fait, il y a bien sûr une application mobile qui permet de voir où le chauffeur est et ainsi de dire « Ah, il arrive dans quelques minutes, il est à tel chemin » et donc ne pas se dire « Mais qu'est-ce qu'il fait? Quand est-ce qu'il arrive ?» etc. etc. Et en plus, ça c'est ce côté humain, c'est que le chauffeur va appeler la personne pour prévenir, je crois que c'est une demi-heure en avance, « Est-ce que vous êtes bien chez vous? Est-ce que vous arrivez ?» etc. etc. Et là, on est vraiment dans l'attention et on va essayer de fluidifier le parcours client. L'autre point, en fait, c'est un point qui est intéressant, c'est le groupe Atlantique qui cherche aussi à aider ses clients et ses distributeurs. Par exemple, en fait, ils ont mis en place toute une série de vidéos tutos qui vont aider les distributeurs à réparer des chauffe-eau. Parce que tout simplement, ils se rendent compte qu'il y a une gamme de plus en plus importante de chauffe-eau. Et surtout, en fait, les nouvelles générations de réparateurs, ils sont habitués au digital. Et plutôt que d'aller voir des manuels ou d'aller chercher sur des données ou dans leur expertise, en fait, ils préfèrent aller voir un tuto, voir comment ça marche et trouver la solution. Et c'est vrai que c'est ce que je fais moi aussi. Quand j'ai un problème, généralement, j'essaie de trouver un tuto YouTube et j'essaye de trouver la solution. Donc là, je trouve que ce système-là s'adresse très bien aux nouvelles générations et il y a des collaborateurs, des techniciens qui sont également de nouvelles générations. Le dernier point, c'est prévoir en fait qu'ils mettaient en place des campagnes d'appels proactifs sur les distributeurs qui n'avaient pas, avec qui ils n'avaient pas eu d'interaction, ou d'anticiper par exemple les personnes qui partaient à la retraite pour prendre contact avec eux pour leur dire la retraite ça arrive dans quelques années, commencez à la préparer dès maintenant, parce que ils se rendaient compte que s'ils attendaient, en fait c'était les banques qui prenaient le relais et donc ils perdaient ce chiffre d'affaires qui était placé chez eux. Troisième élément de la checklist relation client, c'est l'intégration de l'intelligence humaine et artificielle, donc les deux. Donc là, je vous ai mis un programme que je trouve vraiment intéressant, c'est le programme d'Adeco. Donc il y a Mohamed qui m'a fait le plaisir de co-animer avec moi un atelier dédié à cet usage de l'IA pour améliorer la relation client. Et c'est vrai que c'était le message de notre CX Summit, plus d'IA pour plus d'humains, et c'est exactement ce qu'ils ont mis en place chez Adeco. Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo si vous voulez intégrer l'intelligence artificielle vraiment de manière vraiment profonde dans votre relation client, puisqu'en fait Mohamed a vraiment expliqué quel était le programme chez Adeco. Et Adeco est une des sociétés qui a la plus grande adoption de l'intelligence artificielle dans les process en France et dans le monde. Donc c'est vraiment un exemple à suivre. Donc ils ont mis d'abord une base niveau 1, acculturer les équipes à l'intelligence artificielle, parce que si on veut vraiment que ça soit utilisé au quotidien, il faut que les gens sachent comment ça marche, les limites, les exemples. Et en fait, à chaque fois, ils me disaient, quand on fait des ateliers, moi j'essaye de leur expliquer des choses et après on passe sur des cas pratiques de leur usage. Si on fait une formation puis après on repart sur les habitudes traditionnelles, ça ne marche pas. Il faut vraiment travailler là-dessus. Et donc il y a meilleure connaissance, usage de l'IA générative. Niveau 2, en fait, c'est l'adoption. Chaque collaborateur, top management ou petit collaborateur de base qui fait des entretiens, qui gère dans une agence, tous doivent utiliser l'IA générative. Et donc, il y a vraiment cet aspect, leur donner les bons outils. Et après, le niveau 3, c'est transformer la relation client, transformer l'activité. Et ils ont en fait un lab IA avec un travail sur comment en fait faire évoluer le métier de demain. Et c'est vraiment intéressant. Donc là, je vous inviterais vraiment à regarder cet atelier qui était vraiment passionnant, qui durait à peine une demi-heure, mais qui était vraiment allé dans l'essentiel. Donc une fois que vous avez fait ça, bah, vous pouvez analyser les interactions justement qu'il va falloir garder. Donc les interactions qu'il va falloir garder dans les interactions à valeur ajoutée, les réclamations, les situations sensibles, les procédures hors classique. Donc au contraire, des choses qui peuvent être automatisables avec un bot, le chatbot, callbot, tout ce qui est faible à valeur ajoutée. Et les interactions polluantes bah, qu'on ne veut plus avoir parce que c'est pas, ça ne s'adresse pas à nous. Et au contraire, avec le temps libéré, on va pouvoir consacrer plus de temps à l'humain. Et c'est exactement ce qui se passe chez Adecco, puisqu'en fait, ils ont mis en place plein d'outils. Alors, je vous en présenterai trois après. Mais par exemple, ils ont mis trois outils métiers en place qui permettent de passer de réaliser plus facilement des comptes rendus d'entretien et donc de laisser plus de temps à la personne d'échanger avec le candidat qui est en face. Un moteur qui permet en fait d'aller rechercher automatiquement des offres qui correspondent à une personne sans devoir leur dire je vais mettre votre CV et ensuite je vais chercher les offres. Donc vraiment ils ont travaillé sur cet aspect relationnel, mais ils ont également travaillé ici sur des choses que vous pouvez mettre dans votre entreprise avec des délocants éventuellement. Donc sur trois usages sur sept qui étaient vraiment sur la relation client au sens large qu'on peut utiliser partout. Le premier, en fait, c'était Aloha. C'est leur chatbot d'assistance aux réclamations. On utilise l'IA pour faire de l'assistance personnalisée sur la base de connaissances, etc., etc. Ils donnent des conseils RH. Donc, ça permet aux candidats de chercher plus facilement des informations, de soulager un petit peu les équipes. Et ça, on voit bien que ça a amélioré la satisfaction, le NPS en l'occurrence, des candidats et intérimaires. Donc là, nombre d'utilisateurs depuis, on va dire, le 1er décembre, ils sont déjà à 5000 utilisateurs. Nos moyens de conversation, 7000 depuis. Alors, on s'était vu, je ne sais plus à quelle date exactement, mais voilà, c'est des chiffres qui sont énormes. Et c'est vrai que Mohamed me disait qu'on ne pourrait plus revenir en arrière. L'autre point également, c'est la partie réclamation. Là, en fait, c'est un chatbot qui est véritablement intégré au système d'information et qui permet d'aller rechercher des informations, en particulier sur des notions de ah, est-ce que mon solde de tout compte comprend, est-ce que je vais avoir la prime de 10% à la fin ou est-ce que je ne vais pas l'avoir, est-ce que c'est en fonction du contrat, est-ce que c'est pas en fonction du contrat, etc. Et là, on est sur des réponses qui sont quand même intermédiaires. Ce n'est pas de la réponse FAQ simple. On est vraiment sur la réponse à valeur ajoutée. Et ça, ça a vraiment soulagé les équipes parce que ça a traité quasiment 2000 demandes qui sont quand même un petit peu complexes, qui étaient d'abord prises en agence, ensuite remontées au niveau central. Donc, c'était beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour des questions qui maintenant peuvent être résolues directement depuis un chatbot qui est disponible dans l'application Adecco, parce que beaucoup de gens utilisent l'application mobile Adecco, ou sur le site web. Le dernier point, et ça aussi c'est quelque chose qu'on rencontre pas dans toutes les entreprises, ils ont mis en place un GPT assistant avec plein de prompts pour des différents usages métiers avec une IA sécurisée qui est vraiment privative pour tous les collaborateurs d'Adecco. Donc c'est vraiment intéressant, 6000 utilisateurs uniques par mois, 93% de taux de satisfaction. Donc tout ça en fait, c'est lié à ce fameux programme qu'on a vu au départ d'acculturation. S'il n'y a pas ces bases-là, et ben en fait, on n'aura pas une adoption et un usage aussi important. Donc, l'IA générative, si on revient un peu plus sur la relation client de manière classique, bah, on peut également l'utiliser pour les callbots, parce que les callbots IA génératifs sont beaucoup plus rapides à déployer. On n'a plus cette phase d'apprentissage, de lui apprendre les mots, de reconnaissance, etc., etc. On peut lui donner un scope beaucoup plus large, puisqu'en fait, au contraire de l'IA classique où il fallait lui dire question, réponse, tiens, je paramètre tout, là, on lui donne des informations, il est capable d'y répondre. C'est moins cher aussi à mettre en place, beaucoup plus rapide, moins robotisé, un dialogue qui est beaucoup plus fluide. On peut également gérer des appels sortants et entrants, par exemple, dans le cas d'Adecco Medical. Ils peuvent appeler comme ça une journée des intérimaires en disant tiens, voilà, est-ce que vous êtes disponible le mois prochain? Est-ce que vous travaillez la nuit? Est-ce que vous êtes le certificat? Donc le bot est capable de faire ça. Alors en amont, il y a un SMS qui est envoyé pour leur dire attention, vous êtes appelé par un bot. Mais voilà, donc c'est des choses qui sont intéressantes, donc plus de pertinence aussi. Donc je vous donne un exemple, donc la CIPAF, qui est un de nos clients, qui a mis en place un callbot pour gérer les demandes en dehors des heures ouvrées. Ça, c'est intéressant parce que il y a toujours cet aspect humain, cet aspect relationnel, mais en dehors des heures ouvrées, il y a des gens qui ont besoin de questions, qui ont besoin de réponses surtout. Et donc, en fait, là, on voit bien que c'est des volumes qui me semblent petit moment que c'est sorti, 3400 appels en dehors des heures d'ouverture, je dois être peut-être à 25-50 appels par jour, mais au moins ça permet de répondre à ces personnes-là et de soulager les équipes. 25 à 50 appels par jour, ben on va dire que c'est au moins une personne qui est économisée grâce à ça. Donc en fait, on va soulager un agent du service client. Donc 24/7, hein, vous pouvez même le tester si vous le souhaitez, puisque le callbot est testable en dehors des heures d'ouverture en appelant le numéro que vous voyez ici. Si le sujet des callbots vous intéresse, je vous ai mis ici un très beau webinaire qu'on a réalisé avec un de nos partenaires Volubile. Donc ça dure une heure et on vous explique en fait comment mettre en place un callbot en IA générative et quelles sont les différences. Alors, on parle beaucoup de callbot, mais il faut aussi aider les collaborateurs à être plus efficaces. Et là, en fait, tout simplement, on a la notion d'agent augmenté, qui va permettre en fait de faire des suggestions de réponse, de pouvoir faire des résumés d'appels. Et là, en fait, on va gagner du temps parce que au lieu de devoir taper des abréviations qui sont à peine lisibles, là, en fait, on va directement pouvoir avoir un résumé. Alors, ce qu'on constate, c'est que généralement, au départ, les collaborateurs modifient un petit peu, mais avec un petit peu de travail sur le prompt, généralement, on arrive à 90-92% des agents qui ne modifient plus le résumé et qui va permettre, en fait, au contraire, d'aller rechercher des informations, avoir une richesse dans la relation client qu'on va pouvoir mieux exploiter. Alors, si vous êtes intéressé par la mise en place de l'IA au sens large, callbot, chatbot, quality monitoring, analyse de sémantique, etc., je vous invite aussi à regarder ce webinaire qu'on a réalisé avec Consorente, qui est un de nos clients qui est dans le support technique informatique pour des entreprises dans le secteur bancaire, dans le secteur mutuel, et qui ont intégré pleinement l'IA dans leur centre de contact, parce qu'il y a des demandes qui nécessitent vraiment un technicien précis avec des informations, et par contre, on peut parfois avoir un niveau simple de réponse, par exemple, dépanner des imprimantes, faire une demande, faire un préenregistrement d'un ticket. Donc, c'est assez intéressant d'avoir les deux. Voilà. Alors, quatrième point, la gestion des émotions. Donc là aussi, on l'a vu que c'était important, faire que le moment d'appel ou l'interaction avec un conseiller soit un moment d'émotion positive. Donc, pourquoi pas viser l'effet waouh. Alors, donc pour cela, en fait, on va dire que y a des chiffres qui sont assez éloquents sur le sujet. Donc, les émotions du client, le comprendre, c'est un vrai facteur de différenciation. Là, j'ai mis un premier chiffre, hein, 95% des décisions d'achat sont prises de manière inconsciente et émotionnelle. Est-ce que la personne m'a bien parlé? Est-ce que j'ai un bon feeling? Est-ce que j'ai un bon ressenti? Ça, c'est vraiment important. La qualité de la relation client qui influence l'image de l'entreprise. Si j'appelle au téléphone et je n'ai pas ma réponse, à ce moment-là, je suis très mécontent et ça va mal se passer. La qualité de la relation client, moi, je l'ai vu, hein, je l'ai vécu avec certaines marques. Je vous en parlerai peut-être dans un prochain webinaire du sludge. Le sludge, qu'est-ce que c'est? Le sludge, en fait, c'est empêcher les gens de pouvoir répondre, faire le maximum pour empêcher d'avoir une réponse. Alors, je vous donnerai un exemple dans un prochain webinaire d'une entreprise qui est dans le domaine du voyage, pour lequel, en fait, on peut souscrire une offre. Et c'est vrai que si après vous appelez au téléphone, tout est fait pour que vous ne puissiez pas avoir une personne, ou que ce soit le chemin, le croix et la bannière. Donc ça, c'est le sludge. Ça commence à arriver dans certaines entreprises qui essayent, donc, de cacher le numéro de téléphone ou de faire en sorte que les process soient compliqués. Le sludge, c'est l'inverse du nudge. Le nudge, en fait, c'est donner un petit coup de pouce pour inciter les personnes à faire quelque chose, donc de l'influence. Et le sludge, c'est essayer justement de les influencer de manière négative pour qu'ils n'arrivent pas à le faire. Après, la qualité de la relation client aussi influence l'achat ou le réachat. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, le sludge. N'hésitez pas à me le mettre dans le chat. Hein. On le voit parfois dans des entreprises qui sont en difficulté ou qui essaient justement de conserver leurs clients à tout prix, même s'ils sont mécontents et souhaitent partir. Alors, pourquoi la différenciation est vraiment importante et pourquoi il faut travailler sur cette émotion? Tout simplement parce que dans les secteurs qui sont relativement... classique, les produits sont tous un petit peu pareils. Par exemple, dans le secteur mutuel, dans le secteur assurance, les produits sont très normés. Donc, c'est difficile d'avoir des produits qui sont très différents des uns des autres. Et à ce moment-là, en fait, l'image, la relation client, tout ça, en fait, la recommandation et l'expérience client permettent vraiment de faire la différence au-delà du simple prix, parce que les prix sont généralement relativement proches. Donc là, en fait, l'objectif, c'est d'aller travailler sur cette partie expérience client. Alors, pour cela, en fait, je vous fais une petite illustration parce qu'on a travaillé plusieurs fois avec Marc Pandré-Manon, qui est chercheur en neurosciences et qui a écrit le livre 300 000 ans d'expérience client. Et donc, en fait, il nous explique bien que les émotions sont encore au cœur de nos prises de décision. Il y a 300 000 ans, grosso modo, notre cerveau a été formé tel qu'il est maintenant. Il a très peu évolué depuis. Et pourtant, en fait, c'est toujours la base. On a toujours notre cerveau, notre émotion quand on est sous pression, lorsqu'on est énervé, etc., bah, c'est le cerveau émotionnel qui va prendre des décisions. Et après, notre cerveau rationnel, lui, vient derrière pour rationaliser les choses. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Surtout que cet outil-là, en fait, il était conçu dans un environnement qui était assez stable. Là, maintenant, tout simplement, bah, on a l'IA, la mobilité, la mondialisation, l'accélération. Là, actuellement, on touche du doigt un petit peu un certain ralentissement économique. Donc, tout cela, en fait, vient ajouter de la complexité à notre environnement, alors que notre cerveau est fait pour faire des choses assez simples. Donc, il faut lui faciliter le travail un maximum. Et là, en fait, justement, Marc nous a donné quelques exemples. Il nous a montré, en fait, l'exemple. Il a travaillé avec MMA. Et donc, entre un site web ancienne version qui était pensé sur les produits de l'entreprise avec les process à respecter, etc., et un site web qui était optimisé avec le design comportemental, en pensant client, en se mettant à la place du client, on arrivait quasiment à 40% de ventes en plus. Alors, si on se met dans la démarche relation client, parce que le site web, c'est peut-être pas votre domaine d'activité prioritaire, ce qui est important, c'est de se dire aussi, ça peut toucher la partie relationnelle et échange avec les personnes. Le but, c'est qu'en fait, on fluidifie les parcours clients. Marc Van Riemen disait bien que chaque parcours client est divisé en micro-pensées. Lorsque je vais acheter quelque chose, d'abord, est-ce que c'est la bonne taille? Est-ce que c'est la bonne couleur? Est-ce que ça va m'aller? Est-ce que je peux faire un retour, etc., etc. Donc, dans chaque parcours client, il y a une multitude de micro-pensées qui font avancer la personne et qui peuvent être génératrices soit en fait de positif, je renforce ma confiance et je veux passer à l'action, soit de défiance, à ce moment-là, j'ai un doute et je me dis, ah, non, c'est peut-être pas ça, ou soit je reste neutre. Donc, le but, en fait, c'est d'aller fluidifier ces expériences négatives et positives pour essayer de convaincre la personne. Et en particulier dans un univers où les choses sont un petit peu pareilles, où la personne va aller comparer différents fournisseurs, parce que c'est ce qui arrive de plus en plus. Les fournisseurs arrivent très tard dans la boucle d'achat, quand la personne a déjà étudié, l'a vérifié, l'a demandé sur Internet, l'a demandé de ChatGPT éventuellement, etc., etc. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va plus falloir manquer cette relation client. Et il va falloir être efficace. Et là, il a donné l'exemple d'une entreprise dans le domaine des pompes à chaleur dans lequel il a travaillé. Et il disait, voilà, il y a deux moments de vérité, entre autres. La première, c'est expliquer qu'est-ce que c'est une pompe à chaleur. Et la deuxième chose, pourquoi en fait les gens, ils doivent venir chez vous faire le dimensionnement de la mesurer toutes les pièces pour vérifier le dimensionnement de la pompe. Et ça, c'est des choses où les gens disaient, mais pourquoi vous voulez venir chez moi? Je vous donne les plans et ça suffit. Avec les plans, vous pouvez vous débrouiller. Sauf qu'en fait, c'est pas si simple que ça. Il y a des dimensionnements, il y a des meubles, il y a des ceci, des cela. Et que la pompe à chaleur, si tout le monde sait à peu près comment ça fonctionne, on sait que c'est un truc, ça aspire de l'air, ça fait de l'air chaud. Voilà, qu'est-ce que c'est exactement? On a toujours un petit doute et quelque part, ça ne fluidifie pas la relation client. Donc, Marc, elle a dit, mais c'est très simple. Il a travaillé avec les équipes en disant, mais comment on peut l'expliquer de manière plus simple et faire en sorte que cette micro-pensée soit tout de suite beaucoup plus fluide? Et il a travaillé avec les équipes, il nous a dit, mais comment tu peux réexpliquer le principe de la pompe à chaleur? Comment tu expliques simplement? Comment tu expliquerais que si c'était un enfant de 7 ans? Et il disait, mais le commercial, au final, il disait, mais c'est extrêmement simple. En fait, place-toi en hiver, quand tu prends de l'air froid dehors, tu recraches de l'air chaud, tu vois, ça fait de la fumée. Et ben la pompe à chaleur, c'est la même chose. Tu vois, ça prend de l'air froid et ça recrache de l'air chaud. Et c'est ça le principe. Et là, je me dis, ah ouais, maintenant, ça y est, j'ai tout compris. Pareil pour le dimensionnement, pourquoi je dois aller chez vous pour aller mesurer la taille de chaque pièce? Ben, tout simplement parce que c'est comme une paire de chaussures. Si la paire de chaussures est trop grande, vous allez flotter dedans, ça vous faire mal. Si elle est trop petite, vous allez être serré, vous pouvez pas la mettre. Et ben pour la pompe à chaleur, c'est la même chose. Je dois venir chez vous pour mesurer tous les éléments parce que si cette pompe à chaleur, elle est pas bien dimensionnée, ben, vous allez avoir froid. Et si elle est surdimensionnée, vous allez consommer plus d'énergie. Là, les gens disent, ah ouais, c'est vrai, j'ai tout compris. Donc, on crée de la confiance. On a vu tout à l'heure, cette partie confiance et reconnaissance. Et les résultats concrets, Marc nous l'a indiqué, 13% de ventes en plus avec ça. Donc, si vous voulez en savoir plus, on a animé deux conférences avec Marc Van Riemen que vous pourrez regarder. Et si vous êtes dans le domaine secteur mutuel assurance, on vous invite à participer à une matinale qui se déroulera le 28 janvier prochain à Paris, donc une matinale présentielle physique où Marc Van Riemen interviendra pour justement nous reparler de la relation client dans le domaine secteur mutuel assurance et avec l'usage des neurosciences. Donc, si vous êtes disponible, n'hésitez pas, je vous donnerai tout à l'heure les URL, ça peut être super intéressant. Donc, si on veut aussi utiliser l'intelligence artificielle au-delà des neurosciences, et bien tout simplement, le Quality Monitoring IA permet d'aller viser l'effet waouh et l'excellent. c'est. Ça veut dire tout simplement qu'on va aller chercher le 5 étoiles, voire le 6 étoiles sur 5, si c'est possible. Par exemple, on va identifier dans les paroles ce que fait la personne, mais ce qui permettrait de déclencher une perception beaucoup plus forte. Par exemple, l'exemple typique, c'est j'ai une personne au téléphone, elle me dit tiens, j'ai une nouvelle voiture, je me suis pas encore assuré, j'ai un bris de glace, etc. La personne au téléphone dira vous n'êtes pas assuré, mais attendez, on va le faire tout de suite, comme ça on va faire le contrat et vous allez pouvoir le déclarer immédiatement. Non, je vais le faire immédiatement. Normalement, c'est comme ça, je vais vous le faire tout de suite. La personne dit ah ouais, merci, c'est super gentil, vous êtes efficace, bravo. Si on veut maintenant aller chercher l'effet waouh et l'excellence relationnelle, là, en fait, on va essayer de faire en sorte que la personne comprenne bien le geste qu'on a fait et que ça soit véritablement valorisé et qu'elle se dise « Waouh, il a fait quelque chose d'exceptionnel », cette fameuse reconnaissance qu'on a vue tout à l'heure dans l'étude. Et bien, en fait, à ce moment-là, il faut vraiment lui matérialiser cela en disant « Normalement, ce n'est pas dans votre contrat, cependant, parce que vous êtes un client fidèle, parce que ceci, parce que cela, et ben, je vais vous le faire immédiatement et sans surcoût. » Là, en fait, on valorise véritablement le coup, enfin le coup, le geste. Et ça, on ne peut le faire très facilement, sauf en écoutant justement ces interactions, en ayant dans le détail, parce que si on écoute 5, 6 interactions par mois avec un collaborateur, c'est compliqué. Tandis qu'avec l'intelligence artificielle, on peut aller chercher ces petits moments-là où en fait, il y aura un mot qui aura changé, il y aura un petit geste qui aura été oublié et on va pouvoir comme ça travailler sur cette excellence relationnelle. Alors, on est à la cinquième, on va déborder un tout petit peu. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat, si vous voulez, je les répondrai avec grand plaisir. Donc, réhumaniser la relation client au bon moment, ça c'est le 5. Et c'est vrai qu'on a eu un beau cas d'exemple avec Soli Azar, qui est un de nos clients dans le domaine assurance. On a remporté il y a à peu près une semaine de ça le Cador bronze de la relation client banque assurance. Pour en fait justement cette partie gestion des émotions positives et également des incivilités. Donc nous, ce programme-là qui a été mis en place chez Soli Azar, on le voit bien, qui commence à être déployé de plus en plus d'entreprises. Je vous l'ai détaillé ici avec les grandes lignes. La première étape pour vraiment pouvoir être en phase avec les émotions des clients et mieux les gérer, c'est écouter les émotions des clients et les partager dans toute l'entreprise. Donc, c'est les enquêtes de satisfaction qui viendront tout simplement permettre de récupérer le feedback client, de pouvoir le traiter et le diffuser dans l'entreprise. Ça, c'est ce qu'on a mis en place chez Soli Azar. Ensuite, bien sûr, c'est d'aller montrer et prouver aux collaborateurs leur utilité. Et donc, la diffusion des verbatims qui sont diffusés aux collaborateurs pour montrer qu'ils ont fait un bon travail, mais également, on le verra après, pour aussi les féliciter. C'est-à-dire qu'on a la possibilité avec le module Bravo d'avoir l'enquête de satisfaction qui remercie l'entreprise, mais en plus, on peut demander à la personne si elle veut remercier la personne qui a répondu. Et là, on est vraiment dans un travail de reconnaissance du travail et du travail qui a été fait par la personne. Après, on peut utiliser les fameux verbatims détectés par Eloquent pour les diffuser au CODIR. C'est ce que fait Soli Azar. Donc, là, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est aussi pouvoir, si on veut gérer les émotions des clients, c'est comprendre ses propres émotions. Donc, ses propres émotions pour savoir si moi, je ne suis pas en forme, ne pas le prendre pour moi, écouter avant de parler, etc. Et puis ensuite, poser un cadre relationnel, c'est-à-dire quand je vais parler avec une personne, je lui dis bonjour, je lui laisse la parole, j'essaye aussi de travailler mon assertivité, etc., etc. Et après, bien sûr, travailler sur la partie quality monitoring avec nos outils. On propose dans le centre de contact le quality monitoring qui permet de débriefer, faire du coaching bienveillant et de pouvoir former les équipes. Ce qui est intéressant chez Soli Azar, c'est qu'ils ont également mis en place un chatbot qui permet en fait d'entraîner les équipes à mieux gérer des conversations. Donc, c'est vraiment cet aspect, j'aide les équipes à être plus efficaces et de s'entraîner. Parce que on voit bien que pour transformer un geste en réflexe, il faut le pratiquer de manière régulière. Le dernier point mis en place, je trouve vraiment excellent, c'est la création de fiches émotions. C'est-à-dire qu'à des moments clés du parcours client, on doit être en phase et en résonance avec les émotions du client. Et par exemple, ils ont mis 45 fiches émotions qui permettent en fait aux équipes de savoir ce qu'ils doivent faire ou dire lorsqu'ils sont en interaction avec les clients. Par exemple, lors d'achat d'une nouvelle moto, le conseiller doit bien sûr gérer la partie assurance du véhicule, mais également cette partie, qu'est-ce que c'est comme moto, quelle couleur, pourquoi vous l'avez pris, qu'est-ce que vous voulez faire avec, etc., qui permettent d'être en résonance avec le client, d'être en empathie avec lui et de faire en sorte qu'il va se sentir vraiment écouté et fier d'avoir fait appel à la bonne personne. Je l'ai indiqué tout à l'heure, on commence à voir émerger les incivilités. Là, encore une fois, ben, il y a quelques programmes, on a eu le plaisir de faire plusieurs webinaires avec Groupe France Mutuelle, avec Groupama, avec Soli Hazard, avec Lamarck, avec Guillaume Antonietti du COS, COS System. Et en fait, on voit bien qu'il y a une augmentation des incivilités puisque ben, il y a une immédiateté qui demande d'avoir tout de suite des réponses, tout de suite, moins de retenue, tout ça qui fait que c'est plus compliqué maintenant des personnes sont beaucoup moins sympathiques au téléphone. Donc là, on a ces fameux trois webinaires que je vous inviterai à regarder si vous souhaitez, qui vous expliqueront en fait comment mieux gérer les émotions, les incivilités. Donc comment gérer une incivilité, je vous fais un petit résumé, hein, c'est cette frustration, colère et qui arrive après l'agression verbale. Donc si on n'est pas capable de gérer cette partie-là, bah, on arrive sur des émotions. Si on n'est pas capable de gérer cette émotion de colère et la prendre en compte, à ce moment-là, bah, là, on arrive sur cette partie incivilité. Donc, lors du webinaire qu'on a co-animé avec Salima Belghi et Astrid Delièvre de Clorian, Clorian qui est un de nos clients pour la partie centre de contact, et ben, en fait, elles ont présenté les 5 leviers pour justement désamorcer ces incivilités. Première étape, former et sensibiliser les équipes, hein. Structurer cette partie gestion des incivilités en interne pour aider les clients, protéger les collaborateurs en disant comment faire, comment le management peut mettre en place, mettre fin à la conversation, soutenir jusqu'à mettre en place des sanctions, mettre en place des procédures judiciaires, etc., etc. Et reconnaître les incivilités qui est vraiment important. Qualifier qu'est-ce qu'une incivilité. Si on ne dit pas qu'est-ce qu'une incivilité, ce qui n'en est pas une, à ce moment-là, en fait, on peut laisser la porte ouverte partout et les collaborateurs deviennent des punching balls. Donc, je vous invite à regarder ce webinaire ici, là, sur... lors du CX Summit avec Astrid Lelièvre de Corian et enfin Clariane, le groupe Clariane, et Salima Belghi qui est vraiment passionnant et qui explique en fait de manière concrète comment faire. Il y a le feedback, il y a les analyses, etc. Alors on est au sixième, là j'ai un peu débordé. L'excellence opérationnelle. Donc l'excellence opérationnelle, bah ça passe par plusieurs choses. Là je vous ai fait des petites sélections. Donc bien sûr les process, hein, travailler de manière plus efficace, mais c'est également donner du sens. Et là j'ai bien aimé en fait le webinaire qu'on a fait avec Benoît Méronin, qui est chercheur en relations clients et professeur à Grenoble École de Management, qui nous a dit ben voilà, si on veut vraiment donner du sens et diffuser une culture client, il faut que les personnes soient réceptives. Or le problème c'est qu'en fait si on fait une formation un petit peu théorique, ça a du mal à passer, en particulier sur les jeunes générations qui demandent un peu de concret ou qui sont plus compliqués à manager. Donc Benoît, ce qu'il préconise, c'est tout simplement en fait de donner du sens et des métaphores. Et lui, il aime bien utiliser des séries télé. Et c'est vrai qu'il nous a présenté deux séries télé, Six Feet Under et Mad Men, mais il nous dit ça marche aussi pour Game of Thrones ou d'autres séries. C'est prendre des moments de ces séries télé et qui sont liés à la relation client, sur l'écoute, sur la compréhension, etc., etc. Et avec ces différentes séquences, et ben tout simplement pouvoir faire passer des messages, faire en sorte que les gens discutent entre eux. Et comme les séries télé sont devenues assez universelles, c'est un excellent moyen de faire passer des messages sur la transformation digitale, sur la transformation en relation client, etc. L'autre point aussi, là c'est un webinaire qu'on a animé avec la MNT et le CPRC, donc le syndicat des professionnels de la relation client Rhône-Alpes, et la MNT qui est la Mutuelle Nationale Territoriale. Et c'est vrai qu'il y a une superviseuse et une conseillère qui sont venues et qui ont parlé de leur métier et qui ont parlé en fait d'exemplarité du manager et comment un manager peut devenir un leader et non pas un simple manager pour impulser l'engagement des équipes et faire en sorte que on va vraiment travailler sur l'engagement et la culture client. Donc un webinaire vraiment intéressant. En particulier, on fait un petit focus lors de leur intervention sur plusieurs points. Le premier qui était en fait comment on va pouvoir diffuser la voix du client. Donc avec les solutions d'enquête de satisfaction éloquent, ils ont mis en place un mur des verbatim, ils ont mis en place des comités transverses, des petits déjeuners, et ils ont également mis en place la fresque du client. Vous voyez, c'est ce petit jeu qu'on voit tout à gauche, qui permet en fait de sensibiliser toutes les équipes, en dehors même des équipes qui sont en face avec le client, sur comment la relation client est essentielle. Ils ont travaillé également sur la valorisation des collaborateurs. Je vous ai parlé tout à l'heure, ces fameux remerciements, les bravos qui sont envoyés directement aux équipes, qui permet après de faire aussi même un petit coaching. Qui a eu le plus de bravos ce mois-ci? Il y a eu Laurent qui a eu 7 félicitations, Cécile qui en a eu 3, Marie qui en a eu 4. Donc vraiment un moyen de valoriser les équipes au-delà des simples verbatim qui remontent aux clients. Et il y a même des bravos d'or qu'ils ont mis en place avec les équipes, enfin un classement des personnes qui ont eu les plus beaux bravos de l'année. Le dernier point, c'est cette partie relations clients attentionnées que je vous invite vraiment à lire, qui est intéressante puisque lorsqu'ils ont une personne au téléphone, ils veulent faire en sorte que ce moment-là marque les esprits, ce fameux effet waouh. Et cette relation client intentionnée, c'est quoi? C'est lorsqu'on a une personne au téléphone, on répond à la demande et à la fin, bah, si c'est possible, on pouvoir proposer en fait un geste particulier. Par exemple, une personne est hospitalisée, bah, on lui dit bah, vous rentrez de l'hôpital, c'est vrai que c'est pas facile. Si vous souhaitez, on a un service qui vous permet d'avoir de l'aide à domicile ou des choses comme ça. Donc on est vraiment sur cette attention qui va faire la différence lors des moments de vérité. Alors, pour améliorer ici l'efficacité des équipes, nous, au niveau des locaux, bah, bien sûr, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est important d'aller coacher les équipes. Donc, on a la partie quality monitoring avec l'enregistrement des appels qui peut être possible et comme ça, ça permet de former les équipes. Mais également, dans l'outil, on a l'employee effort score qui permet de mesurer l'effort qui a été fait par le collaborateur. Par exemple, il y a eu un problème de process, il y a un problème avec le client, etc. Et ça, ça permet d'alerter sur l'insatisfaction cachée, sur des process défectueux, etc., etc. Donc, quelque chose qui est vraiment intéressant à mettre en place dans les entreprises. Numéro 7, la transformation des feedbacks en actions concrètes. Alors ça, en fait, on a un très beau webinaire qui est vraiment intéressant, qui était animé par la Massif, donc Sébastien Poisblanc, et Mickaël de CityGo. Donc en fait, c'était intéressant parce que c'était un webinaire, un atelier. On avait d'un côté les méthodes des startups très orientées ROI, rentabilité, mesure, etc., etc. Et de l'autre côté, la Massif qui était vraiment dans ce geste. Voilà, je suis dans la culture client. Je suis pas dans le transactionnel. CityGo est vraiment dans le transactionnel parce qu'en fait, ils vendent en fait du transport courte durée, enfin du transport entre particuliers en fait, entre chauffeurs et personnes. Donc en fait, c'est du transactionnel et on voit bien que si la personne elle est déçue, hop, elle va arrêter le service. Et donc en fait, un gros travail là-dessus. Et au contraire, la Massif qui est sur du temps long parce qu'en fait, la personne ne va pas arrêter son contrat comme ça du jour au lendemain. Surtout si elle n'a pas de sinistre. Donc on voit bien ces deux aspects-là qui sont vraiment complémentaires. Alors, la voix du client à la Massif, donc qui utilise la solution Eloquent pour tout ce qui est en cas de satisfaction et mesure des avis. Donc là, ils ont le baromètre de marque, les écoutes à chaud, post-contact, les enquêtes sur les parcours, le partage des avis, la gestion des réclamations et tout ce qui est travail sur les communautés, la co-construction. Donc là, c'est assez intéressant sur ce dispositif. Donc, je vous laisserai regarder. Et ça, c'est côté client. Et côté interne, bah, ils ont aussi des dispositifs client au cœur qui est en fait un hashtag qui permet en fait de collecter des irritants, faire des propositions d'amélioration dans les process. Quasiment 600 propositions chaque année. Donc, et je crois qu'ils ont un délai d'engagement de réponse dans les 45 jours pour essayer d'améliorer les choses. Ils ont leur baromètre également. Et ce que j'aime bien, c'est cette initiative, les étoiles CX. Chaque année, en fait, il y a des projets qui sont sélectionnés pour améliorer la relation client et il y a des récompenses qui sont en place avec des prix pour les personnes, des récompenses et bien sûr des plans d'action. Ça, c'était pour la partie donc récolte. Et après le passage à l'action, ben, ils disent, ben, voilà, on récolte des choses, mais ce qui est important, c'est savoir les mettre en place. Et là, par exemple, il y a le robot tondeuse qui est devenu de plus en plus commun dans les foyers. Bah là, ils se sont rendu compte avec ces remontées-là qu'il fallait l'inclure. Les boîtes à clés pour les gens qui font de la location courte durée, enfin, les panneaux solaires, les process, etc., etc. Donc, il y a vraiment comme ça beaucoup de choses qui sont assez intéressantes à mettre en place et vous verrez ce webinaire intéressant. L'autre point qui est mis en place, cette fois on est plutôt sur CityGo, c'est cet aspect plutôt productivité. Et c'est vrai que le but, c'est de faire en sorte que malgré l'hausse du chiffre d'affaires, en fait, le nombre d'appels dans une startup, en tout cas, ne soit pas proportionnel. Et c'est vrai que Mickaël nous a vraiment expliqué comment il travaillait au niveau de CityGo. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il a renommé en fait les indicateurs pour s'adresser à sa population de chargés de relations clients qui sont plus jeunes. Et c'est vrai que le SCR, First Contact, parlait pas beaucoup pour eux, donc il parle plutôt de first touch ou des choses comme ça. Donc ça, il renomme en fait les indicateurs pour en fait que ça soit quelque chose qui soit très parlant, en plus que ce soit lui dans l'univers du basket, donc ça lui parle beaucoup cet aspect basket, sport, etc. Et ça parle aussi aux collaborateurs. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que dans son activité chez CityGo, ben, il vérifie bien que, par exemple, lorsque l'on met en place un geste commercial, est-ce que ça a un impact derrière? Par exemple, ils se sont rendus compte qu'il y avait des fois des erreurs de double paiement parce que la personne payée en liquide avait déjà payé sur le site internet, elle était mécontente. Dans les deux tiers des cas, en fait, ben, s'il leur donnait juste un bon d'achat de 5 euros, ben, la personne ne réutilisait plus le service. Par contre, s'il remboursait en entier, à ce moment-là, il y avait juste un tiers des gens qui partaient. Donc, ils gagnaient les deux tiers des personnes. Donc, en fait, il y a plein de travail là-dessus sur l'aspect pilotage, la mesure aussi de combien ça coûte les problèmes sur le produit et comment on fait pour les améliorer. Il y a un travail sur la personnalisation également qui est fait parce que chaque collaborateur a une signature email qui est différente. Par exemple, Boris qui travaille la nuit, c'est Boris, votre phare dans la nuit. Donc, il y a vraiment cet aspect humour, cet aspect relation, proximité qui est vraiment intéressant que je vous invite à consulter dans le webinaire. Alors bien sûr, nous, chez Elocan, on vous propose de mettre en place de manière ça concrète, avec l'analyse des parcours clients pour quantifier, hiérarchiser en fait les problématiques, l'analyse en temps réel avec par exemple des efforts clients, des bad buzz, des risques juridiques, et en fait on dit ah attention, il y a une personne qui va se plaindre sur les réseaux sociaux, etc., etc. Et bien sûr, travailler sur les KPI pour aller améliorer les éléments clés. Alors il nous reste encore deux points à mettre en place. Le renforcement de la fluidité des parcours clients, ça forcément, c'est un petit peu le cœur de métier chez Elocan, avec la mesure de la satisfaction client en différents points, avec des capteurs en cas de satisfaction, SMS, email, sur le site internet, post-appel, etc., etc. Et ça, c'est assez intéressant. Et là, il y a pas longtemps, j'ai animé une conférence avec Malakoff Humanis, donc qui est dans le domaine des assurantielles. Et c'est vrai que eux, au lieu de travailler sur le CES, hein, Customer Effort Score, donc l'effort à mettre en place, ils ont travaillé sur le Net Easy Score, c'est-à-dire le critère de simplicité. Comment ça a été facile de faire cet acte, ce parcours client, etc. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que les jeunes générations étaient vraiment très orientées sur la simplicité. Donc, il vaut mieux tourner la question sur comment ça a été simple et après travailler sur les parcours qui n'ont pas été simples pour les améliorer. Et après, une fois qu'ils ont fait cette amélioration, on va travailler sur d'autres choses. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment assez intéressant et c'est vrai que notre partie analyse sémantique permet aussi de faire ce travail-là. Donc, pilotage de la satisfaction aussi qui peut se faire par équipe. Est-ce que certaines personnes sont plus orientées clients que d'autres? D'autres personnes sont plus techniques mais pas assez orientées clients. Donc, comme ça, en fait, on peut comparer et voir, par exemple, un agent, on voit, par exemple ici Marie, qui a une note de 4,5, donc une très bonne satisfaction, mais en fait qui résout un petit peu moins de problèmes. Donc en fait, là, elle résout moins de problèmes au premier contact, mais elle a une meilleure satisfaction. Peut-être qu'elle prend plus de temps, elle suit un dossier, etc. À l'inverse, il y a Alexandre qui a 10. Alexandre 10, lui, il est super efficace parce qu'à la fois, il a une résolution au premier contact qui est vraiment important et en même temps, il a une très bonne satisfaction. Donc là, en fait, on peut voir un peu ce qui se passe là avec la moyenne, etc., etc. Donc ça, c'est cet aspect monitoring assez intéressant. Donc on peut identifier après des points noirs, etc., etc. Donc, c'est également répondre aux clients au moment de vérité, hein, utiliser le bon canal, miser sur les FR, etc. Et pour cela, en fait, nous, ce qu'on préconise et ce qu'on met en place chez nos clients, c'est la base de connaissances. On a déjà mis en place chez pas mal de clients, par exemple, Haute Paris, qui a mis en place une base de connaissances qui permet de former les nouveaux collaborateurs qui arrivent dans l'entreprise, qui ont déjà des informations, en particulier si vous avez une multitude de bases de données, de sources d'informations, au lieu de travailler sur plein d'informations, ils ont juste un écran avec une réponse directe. Donc là, je vous mets ici un exemple de base de connaissances que l'on peut enrichir et faire en sorte que tout le monde travaille ensemble de manière commune. Alors, on peut aussi innover, je vous ai montré tout à l'heure à l'écran, dans les bonnes pratiques qui étaient remontées chez les professionnels de la relation client dans le transport logistique, ben, il y avait bien la partie visio, qui est vraiment un vrai levier waouh. On le voit bien ici. Là, vous avez un webinaire qu'on a co-animé avec Apizzi, notre partenaire, et Gainbureau, notre partenaire sur tout ce qui est partie messaging. Donc, on voit bien que la visio permet de réduire la friction, faire un effet waouh. Si la personne ne s'attend pas, qu'on dit attendez, je vais faire une expertise, attendez, je vais regarder un peu ce qui se passe, je vous envoie SMS et vous pouvez montrer avec votre téléphone. Là, on est sur un vrai effet waouh. WhatsApp, qui est également un canal qui est vraiment très intéressant sur les réseaux sociaux, sur les médiatés, et le RCS, là j'y reviendrai un peu plus. Le RCS, c'est le SMS 2.0 qui a vraiment une efficacité qui est beaucoup plus forte. Si vous êtes intéressé par la visio-assistance, je vous ai mis ici deux cas. La Fnac Darty, avec un cas intéressant, puisqu'ils utilisent la visio pour faire du dépannage, la visio pour faire de l'expertise, et donc à la fois avec un objectif ROI, mais également RSE avec la partie de visite des techniciens qui sont invités. Un autre exemple, vous avez un témoignage ici de Xavier Ritling de Rexo qui utilise la visio pour faire de l'expertise à distance. Alors, je vous en ai parlé il y a deux secondes, le RCS, c'est un canal qu'on utilise même ici en interne, hein, au niveau marketing. Là, on a organisé une matinale Mutuelle Assurance en juin dernier, donc la prochaine, ça sera en janvier. Et on a également envoyé un message pour notre CX Summit, qui est notre gros événement annuel. Et c'est vrai que le SMS et le mobile est vraiment intéressant, mais on voit bien que c'est un petit peu, c'est pas très riche, on a moins d'interactivité, c'est assez peu réactif. Nous, on utilise le RCS pour envoyer des messages, et c'est vrai que ça fait à peu près trois fois plus de réactivité par rapport à un SMS classique, parce qu'on peut mettre des images, parce qu'on peut mettre des boutons, parce que les personnes peuvent directement appeler, il y a de la géolocalisation, donc vraiment un outil qui est vraiment intéressant à tester dans vos campagnes. Avant-dernier point, la partie Personnalisation, donc la partie personnalisation avancée. Alors là, j'étais assez light, puisqu'en fait, j'ai comme déjà beaucoup de choses à vous dire. C'est la partie intégration CRM et centre de contact qui est vraiment quelque chose qui nous permet de mieux personnaliser. Donc, personnaliser comment? Bah, tout simplement avec l'affichage automatique des personnes avec leur dossier, la vision à 360 degrés, l'enregistrement automatique des résumés, etc. Donc, voilà, cette intégration CRM et centre de contact au niveau de la personnalisation, c'est quelque chose qui est vraiment clé. Si vous ne l'avez pas encore mis en place, je vous invite à le mettre. Et on arrive au dernier, là j'ai dépassé un tout petit peu le délai. Donc l'optimisation des ressources, hein. L'optimisation des ressources, qu'est-ce que c'est? C'est être plus efficace. Donc soit en fait on ajoute de nouveaux outils, du self-care, des nouveaux canaux, de la proactivité, soit en fait on va optimiser l'existant avec par exemple de l'automatisation. Et pour cela en fait, ben, je vous présente deux webinaires, un webinaire sur les KPI et si vos KPI vous trompaient, donc un webinaire qu'on a mis en place avec notre responsable service client, comment on peut analyser chaque KPI, comment aller vraiment dans le détail, et l'autre en fait sur l'excellence opérationnelle. Donc, vous verrez dans ce webinaire qui est vraiment intéressant, on analyse par exemple la DMT, comment en fait il faut plutôt travailler la DMT soit en contrainte, en disant ouais il faut que mes agents prennent beaucoup d'appels, soit en fait on apprend justement à l'inverse en se disant mais la DMT non, elle doit être longue parce que mes collaborateurs doivent prendre du temps pour discuter avec des personnes, travailler sur les compétences spécialisation pour savoir si on peut comme ça dispatcher à des personnes, travailler également sur la dissuasion. Donc il y a des cas qui sont intéressants. Et vous pourrez regarder aussi le webinaire qu'on a co-aligné avec l'ADI sur le sujet. Le dernier point pour cette partie optimisation, c'est la gestion des équipes, donc la gestion du planning. Et là, en fait, la partie workforce management, on a Frédéric Derrien et Michael Cohen-Bakri qui nous ont donné de très bons exemples. Par exemple, Frédéric a dit que sur une équipe qui était de 80 personnes, équivalent temps plein, en mettant en place le workforce management, ils auraient réussi à économiser, je crois que c'est l'équivalent de deux équivalents temps plein en un an. Donc, ce qui est assez énorme avec un petit outil, immédiatement, c'est de l'efficacité, donc optimisation des ressources, mais également fidélisation des collaborateurs. Puisqu'en fait, en leur mettant à disposition une application mobile où ils peuvent faire de la bourse d'échange, en fait, on a des collaborateurs qui se sentent beaucoup plus engagés, qui permettent d'avoir plus de fluidité, etc. etc. Et on voit ici, hein, l'application mobile permet d'avoir un taux de churn qui est beaucoup plus faible. On est vraiment à 17% contre 29% quand on est en PDF ou en tableur. Voilà. Alors, ce qu'il fallait retenir, et on va passer à la session de questions-réponses, c'est que ben, les attentes des clients ben, vont plus faire de l'instantanéité, des parcours clients plus fluides, un service personnalisé, de la proactivité et de l'empathie. Donc, à vous de choisir le bon dosage entre humain et IA, sélectionner les innovations, les outils qui vont avoir un effet maximum, parce que là, je vous ai donné 10 outils. Nous, on est là à votre disposition. Si vous souhaitez, on peut prendre le temps d'un call, une demi-heure ensemble, pour savoir, en fait, vous, dans votre relation client, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que vous souhaitez améliorer, et nos équipes vous proposeront les meilleurs outils pour le faire. Voilà. Votre plan d'action, donc, révisiter votre offre relationnelle si vous ne l'avez pas encore fait, analyser les parcours clients, lancer une étude auprès de vos équipes pour savoir ce qui va remonter, sélectionner ou agir en priorité avec une quick win, donc quelque chose qu'on peut mettre en place rapidement, et après un projet un peu de plus grande envergure, faites un pilote, faites entrer la voix du client, et à la fin, faites voler vos outils. Voilà, donc une checklist assez simple. Pour nos prochains rendez-vous, donc comme je vous le disais, ben, moi je vous donne rendez-vous le 28 janvier à 9h pour une matinale dédiée assurance mutuelle. Donc vous pourrez vous connecter ici sur eloquent.com/événement. Donc réservez vraiment aux professionnels de la relation client parce qu'on est vraiment en nombre limité, donc professionnels de la relation client mutuelle assurance. On fera un webinaire dédié transport logistique eau énergie le 5 février et on se retrouve au salon All for Customers les 25-26 mars prochain. Donc vous pourrez rencontrer nos équipes en vrai, me rencontrer moi, et j'aurai beaucoup de plaisir à discuter avec vous. Et bien sûr, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez nous contacter au 0805 301 100 ou à Marketing Eloquent. Voilà, donc bonne fête de fin d'année à tous et à toutes, et à très bientôt. Au revoir.